Les jardinières.
Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Ce matin, on n'a même pas eu les yeux qui piquaient au réveil. Le temps est si radieux qu'on a envie d'en profiter le plus possible. Et pourquoi pas, en jardinant jusqu'à 8h, on se consacre à vos questions. Et quand je dis « on », eh ben oui, je ne suis pas seule pour vous accompagner. Il y a Sophie avec moi, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Effectivement, quel plaisir de vous retrouver ce matin sous le soleil de juin. Notre professionnel du jardin a une heure à disposition pour faire votre jardin le plus joli possible. Et notre professionnel, eh bien, c'est Tom Mona, alias Tom le jardinier. Bonjour Tom.
Bonjour, bonjour.
Et nous sommes le 1er juin. Vos projets de jardinage fleurissent comme les fleurs des champs. Alors, quels légumes planter en ce moment dans votre potager? Que faire avec cette vieille plante d'intérieur qui sèche derrière votre fenêtre? Toutes vos questions seront traitées grâce à Tom le jardinier.
Et il n'y a pas de questions stupides, hein, donc n'ayez pas peur de les poser, vos questions. Et pour les poser, vous pouvez composer dès maintenant le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire un SMS en inscrivant le mot « jardin » suivi d'un espace et de votre question. Et vous envoyez le tout au 939. Et sinon, eh bien, il y a toujours le formulaire présent sur nos sites internet sous l'onglet « Émission questions aux jardinières ».
Eh ben, je crois que tout est dit, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières. Sophie et Stéphanie.
Alors on va commencer avec une question reçue cette semaine par formulaire via notre site internet. Donc, j'ai un espace extérieur qui se trouve la plupart du temps à l'ombre. J'aimerais y mettre un bac de fleurs. On m'a conseillé d'y planter de la lavande. Alors qu'en pensez-vous? Et puis sinon, quelles autres fleurs puis-je mettre à cet endroit? C'est Jérémy de Saint-Ursanne. Alors Tom, est-ce que vous avez un petit conseil à donner à Jérémy?
Alors, on va essayer d'éviter la lavande, même si ça sent très bon. Il y a un milliard de fleurs qui peuvent être utilisées. On peut, par exemple, mettre des hostas, on peut mettre des fougères, on peut mettre un vaste choix aussi d'annuels avec tout ce qui est les impatiences. On appelle ça des buveuses de l'ombre qui sont parfaites. Il peut aller en jardinerie et demander plein de conseils, mais on va quand même éviter les lavandes.
D'accord, et puis par rapport à la place, c'est-à-dire à la place à l'ombre, est-ce que ça change beaucoup, disons, par rapport à une place au soleil? Est-ce qu'il y a vraiment des répercussions sur les plantes, ou finalement les plantes peuvent s'adapter?
Alors, le risque, si on met une plante qui adore le soleil, c'est qu'elle s'étiole un peu, donc elle va grandir énormément pour avoir assez peu de... Elle risque de tomber et puis être pas très très jolie. Et puis si toutes les plantes fleurissent, ben on risque aussi évidemment d'avoir beaucoup moins de fleurs.
On va passer à l'intérieur maintenant avec Yvette qui nous a écrit que son hibiscus d'intérieur est infesté de cochenilles malgré les traitements. Elle nous dit que ça empêche du coup les boutons d'éclore. Hein. On lui a conseillé une pulvérisation à base de savon noir. Mais Tom, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, il n'y a pas vraiment d'hibiscus d'intérieur. Là, je pense que c'est un hibiscus qui va plutôt sur son balcon ou à l'extérieur. Je pense qu'on dit hibiscus d'intérieur, c'est ceux qu'on doit rentrer en hiver, parce que sinon, c'est des plantes gélives. Donc là, au moment où c'est qu'elle va le sortir, si elle a un jet d'eau, elle peut le passer sous le jet d'eau, elle va déjà éliminer bien, bien, bien des cochenilles. Puis après, sinon, il y en a une petite... recette à base de savon noir, elle peut mettre aussi un petit peu de vinaigre pour enlever les cochenilles.
Et ça reste naturel?
Ça reste naturel, et puis il faudra peut-être répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à quand il n'y ait plus de cochenilles. Faire attention, comme c'est un hibiscus en pot, que les cochenilles ne vont pas se réfugier des fois entre la motte de terre et le pot quand l'hibiscus a un peu soif.
Mais du coup, comme elle nous parle d'un hibiscus d'intérieur, est-ce qu'elle n'aurait pas laissé son hibiscus à l'intérieur, puis c'est pour ça qu'il a chopé ce parasite?
Ça peut, mais il peut aussi choper ces petites bestioles. Hein. Ça fait un peu des carapaces, puis ça fait un peu de une petite protection un peu suyeuse, comme ça. On peut aussi en choper à l'extérieur.
Merci Tom le jardinier, on rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h et vous qui nous écoutez 0900 70 20 20, 36 centimes la minute pour poser votre question directement à Tom Mona, ou alors il y a aussi le SMS, un SMS ça se passe au 939, vous notez le mot jardin, un espace suivi de votre question détaillée. On va écouter Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo avec ce titre Tu trouveras, on revient évidemment tout à l'heure.
7h, 8h, les jardinières.
Et on en reçoit des questions, notamment de Chantal de Marin, qui demande, Tom, si vous savez comment faire refleurir une amaryllis qui n'est plus très en forme.
Eh bien, à cette époque-là, c'est normal que son amaryllis, il n'est plus très en forme. Il a passé la plus belle partie de l'hiver où c'est qu'il a fait ses feuilles. Donc, il va maintenant gentiment sécher, devenir tout jaune. On pourra couper les feuilles une fois qu'elles sont sèches uniquement, le mettre à la cave jusqu'à cet automne, septembre, octobre. Puis après, on pourra le replanter dans un pot. On sait qu'on met une terre assez riche. Et puis, il va refleurir de plus belle pour Noël.
Ah, pour la plus belle période. On vient de recevoir un SMS, Tom. Un SMS donc au 939, hein, je rappelle comment faire. Le mot jardin, un espace et votre question, comme l'a fait cet auditeur. Nos pieds d'asperges cette année donnent des asperges fines. L'année passée, elles étaient belles et grosses. Que dois-je faire pour avoir de belles asperges à nouveau? Nous les avons plantées environ il y a 12 ans. Alors, est-ce que vous pouvez donner un petit indice, cet auditeur anonyme qui nous écrit ce matin?
Je pense que ces asperges, elles sont fines. Donc, il faut mettre un petit peu de compost, un engrais longue durée toute cette année. Et puis, vraiment... pas y aller mollo, et puis on peut bien les nourrir, et ça sera parfait pour l'année prochaine. C'est un petit peu tard pour cette année.
Ah oui, donc il faudra attendre quand même l'année prochaine. Par contre, 12 ans, ça tient comme ça longtemps, donc des
alors, les asperges, c'est des plantes vivaces qui peuvent revenir assez longtemps. Exactement combien de temps, je ne sais pas, mais ça peut, 12 ans, c'est sans problème.
Une autre question reçue, Tom, de Paul de Bienne, qui a reçu récemment un magnifique bilbergia. Et il aimerait avoir des conseils concernant son arrosage, son emplacement dans l'appartement, sa taille, s'il peut la rempoter, avec quel terreau, quel engrais, etc. En gros, comment s'occuper de son bilbergia, Tom ?
Alors, le bilbergia, c'est une plante qui vit dans les forêts tropicales à la base. Donc, il faut essayer de recréer cette ambiance. Donc, plutôt humide, plutôt une pièce assez chaude, près d'une fenêtre. Pour le rempotage, il peut le faire une fois que la plante elle est plus fleurie. On va mettre un terreau assez pH assez neutre et puis rempoter ça avec faire ça une fois par année à peu près, et puis de l'eau non calcaire si possible pour l'arrosage.
Un non-calcaire, hein. C'est vrai qu'il y a quand même des plantes hein, qui ont un peu de la peine avec le calcaire, toujours.
Et ça fait souvent des vilaines taches sur le feuillage.
Eh bien voilà, merci Tom le jardinier. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Sophie, rappelez-nous comment faire pour poser les questions à Tom.
Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et comme ça, vous pouvez directement discuter avec Tom le jardinier et lui poser votre question. Ou alors, vous pouvez nous envoyer un petit SMS hein, au 939 en inscrivant le mot jardin avant votre question. Ou sinon, il y a le formulaire sur nos sites internet.
7h, 8h, les jardinières.
Et à 7h23, on prend la question de Rosa de Miécourt qui nous demande, Tom le jardinier, si vous avez des trucs, hein, des trucs et astuces pour éloigner les oiseaux qui mangent toutes mes cerises. Ce n'est pas possible de placer un filet car l'arbre est trop haut, en parenthèse, et moi trop petite.
Ça c'est le problème.
C'est problématique.
Alors, il y a une technique, mais sans monter dans l'arbre, ça risque d'être difficile, et c'est de suspendre des CD.
Oui.
Les bons vieux CD qui sont en voie de disparition parce qu'on numérise tout, ils peuvent être placés dans les arbres et ça va faire fuir les oiseaux en bougeant quand il y a un petit peu de vent ou un brin d'air, ben ça va faire des reflets qui vont les éloigner.
Et ben ça peut rester une méthode super naturelle. Effectivement, des fois on voit des CD dans les arbres, on se demande ce que c'est, ben voilà, bonne idée. Par contre, ouais, Rosa, il faudra quand même grimper dans l'arbre. Hein. Ma foi.
Ou demander de l'aide à un ami.
Voilà, c'est toujours la bonne possibilité. On a encore le temps, avant la petite pause météo et inforoute, de vous poser une autre question, Tom. C'est Tony qui nous écrit cette question. J'ai planté 20 griffes d'asperges. Ben voilà, on revient aux asperges. Des asperges vertes, début mars, dans un sol très riche et sablonneux. Nous sommes début juin et aucune n'est sortie. Quel est le problème, selon vous? Alors, on va déjà passer à ça.
Eh bien, moi, je dirais Molo Pinocchio. On va attendre encore un petit. Jusqu'à début juillet, et être sûr que ça ne soit pas mort. Mais début mars, je ne sais pas où c'est que Tony habite. Mais avec le froid, c'est peut-être qu'il y a un petit peu fait trop froid dessus, la plantation. Comme c'est des plantes qui sont stressées, puisqu'on les. Elles ont été semées, puis elles sont, en guillemets, transplantées dans cette aspergerie. Donc, j'irai encore un petit coup de prudence. Si vraiment, début juillet, il n'y a rien qui est sorti, malheureusement, on ne pourra rien faire, puis il faudra replanter. Là, j'attendrai début avril, voire fin avril, pour éviter qu'il y ait cette petite gelée.
Donc là, c'était quand même par rapport au timing, en fait, qui n'était pas forcément par rapport au sol.
Visiblement, le sol très riche et très sablonneux, ça évite vraiment que l'eau stagne. Donc, c'est plutôt juste ce qu'il a fait. Donc, très riche, comme c'est une plantation qui va durer de longues années, c'est bien ce qu'il a fait. Et puis, éviter que. Ce qu'il peut éventuellement faire, c'est s'il replantera ses griffes d'asperges, c'est au début les planter en pot. Comme ça, il est sûr, dans un endroit abrité, il est sûr qu'elles ne gèleront pas. Et ça sera. Et du coup, il plantera ses asperges après.
Merci beaucoup, Tom le jardinier. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Et puis, vous qui nous écoutez ce matin, le soleil est déjà bien haut dans le ciel. Vous avez envie de pratiquer votre activité préférée du week-end, le jardinage. Eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler 0900 70 20 20. Tom est avec nous jusqu'à 8h. Donc, un SMS aussi jusqu'à 8h également. Un SMS que vous envoyez au 939 avec le mot jardin, un espace suivi de votre question. On fait donc cette petite pause musicale, météo et inforoute et on revient.
7h, 8h, les jardinières.
Et sur RFJ, les 7h27, on se fait un petit pink, Walk Me Home, juste avant de parler du temps radieux qui fait en fait en même temps, il n'y a même pas besoin de vous faire la météo. Soleil, soleil et soleil.
Les jardinières.
Et on est de retour dans les jardinières. Notre professionnel Tom le jardinier est toujours bien installé pour répondre à toutes vos questions jardinage. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Et vos questions, vous pouvez les poser en composant le numéro de notre standard téléphonique, le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Mais on lit également vos SMS et vos formulaires. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot « jardin » au début de votre SMS. Laissez un espace, puis tapez votre question et vous envoyez le tout au 939. Et je rappelle que vous avez encore jusqu'à 8 heures pour poser toutes ces questions qui taraudent votre esprit de jardinier amateur.
Et comme vient de le faire Martial de Perry qui nous a envoyé un formulaire, il nous dit la chose suivante. Tom, j'ai hiverné des géraniums, ils sont bien repartis. Ils avaient des fleurs, je les ai nettoyés. Un est devenu vert très clair et l'autre a des feuilles qui paraissent fanées. Sans vie, que puis-je faire ?
Alors, je pense qu'il les a sortis il n'y a pas très longtemps. Ils ont passé tout l'hiver à l'extérieur. On va un petit peu laisser le temps que la plante refasse sa photosynthèse pour pouvoir de nouveau reverdir bien. J'attendrai une quinzaine de jours. Bien suivre au niveau des arrosages. Mettre peut-être un engrais liquide une fois tous les 10 jours. Pour que la plante se remette bien en végétation. Il va refleurir tout l'été sans trop de problèmes.
Merci Tom pour cette réponse. On va tout de suite enchaîner avec une question reçue par téléphone pendant cette pause musicale, météo, inforoute. C'est Gérard Defailly qui nous a appelé parce qu'il sait que certains mettent des copeaux autour de leurs plantes pour éviter les mauvaises herbes. Il aimerait savoir si autour de ses choux-fleurs par exemple, il est possible de mettre du gazon pour justement éviter ces mauvaises herbes.
Alors c'est tout à fait possible, deux petites astuces qu'il faut faire, c'est pas mettre une couche trop épaisse. Moi je dis que quand on met de la tonte de gazon, elle doit pouvoir sécher le jour même sur place. Si on met trop de couches de gazon, ça risque de faire une couche d'humidité et ce risque là c'est que ça va fermenter au pied des choux-fleurs par exemple ou de ces autres légumes. Donc on va essayer d'éviter de faire ça, c'est mieux pour les légumes.
Alors, on va prendre un SMS qu'on vient de recevoir, hein, Tom. Un SMS de la part d'Yvette qui nous parle d'aloe vera. Alors, ça tombe bien. On pourra parler un petit peu d'aloe vera parce que ça génère pas mal de questions. Alors, Yvette, elle nous demande si c'est mieux de la mettre dedans ou dehors, déjà.
Alors, plutôt à l'extérieur maintenant. Mais attention, l'aloe vera est une plante qui risque de geler. Donc, il faudra la rentrer cet automne.
Et concernant l'aloe vera, justement, on avait reçu à l'époque une question concernant cette plante. Comment l'arroser? À quel endroit le placer? Donc voilà, dehors évidemment. Est-ce que c'est quelque chose de facile à cultiver? Est-ce que vous le conseillez?
Alors c'est une plante extrêmement facile à cultiver. Petite chose que je préciserais, c'est qu'il faut plutôt le sortir à l'extérieur par temps un petit peu couvert parce que l'aloe vera a été cultivée maintenant à l'intérieur. Souvent dans nos appartements, ils n'ont pas du tout la même lumière qu'à l'extérieur. Ils risquent d'avoir un coup de soleil. Donc sortir la plante progressivement par temps un peu couvert jusqu'à aujourd'hui où c'est qu'on a le plein soleil. J'ai vu ça arriver il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une question, c'est qu'il y avait des aloe vera, ils étaient venus tout rouges. Ah. Donc effectivement, ils ont chopé un petit coup de soleil. Donc, pas trop l'arroser, hein, c'est quand même une plante qui supporte pas les trop gros arrosages. Ça fait partie de la famille dans le même ordre que les cactus, donc plutôt une plante de terrain très drainant qui ne supporte pas trop les excès d'arrosage.
Donc, sinon, on peut lui mettre une petite crème à base d'aloe vera? Non. Enfin bref, du coup, merci beaucoup Tom. On attend Sophie qui apparemment a quelqu'un en ligne d'ici quelques petites minutes. Mais on va parler compost d'abord avec vous Tom. C'est une auditrice qui nous écrit. Elle aimerait savoir s'il est possible d'utiliser un compost maison, c'est-à-dire mélangé avec de l'eau dans un arrosoir pour arroser des légumes en pot par exemple.
Alors, il y a certains composteurs qui offrent, qu'on peut voir, c'est des petits composteurs des fois de balcon ou qui ont un robinet qui permettent de récupérer le liquide du compost. Mm-hmm. Je ne conseille pas de mettre carrément une poignée de compost dans son arrosoir parce que ça va boucher la pomme de l'arrosoir. Et puis, c'est ce qu'on appelle faire du thé de compost. Et puis, je déconseille de le boire, évidemment. Mais en faisant ça, on récupère cet excès d'eau qu'il y a dans notre compost et puis on le dilue dans une portion pour 10 portions. Donc, par exemple, c'est 1 litre pour 10 litres. Et puis, on peut aller arroser ses légumes sans crainte avec ça. Mmh. Et puis, ça fait un bon engrais.
Et en plus, ça reste comme les gens sont vraiment branchés naturels. Hein, ces temps, c'est quelque chose qui peut marcher parfaitement pour ce genre de choses. Le compost, c'est valable pour toutes les plantes où il y a quelques sortes qui ne supporteraient pas ce genre d'engrais naturel ou pas?
Alors, déjà, je conseillerais de ne pas arroser avec ce mélange sur une plante qui a soif. Mmh. Il faut déjà que la plante elle ait suffisamment d'eau, parce que sinon, ce qu'on appelle faire une osmose inverse, c'est un peu compliqué. C'est juste que les sels qu'il y a dans les éléments minéraux qu'il y a dans ce compost, ça va absorber l'eau de la plante. Donc, on va éviter d'arroser une plante qui a soif, mais sinon, éviter de mouiller les feuillages, puis tout devrait bien se passer. Sur la plupart de nos plantes ou au potager, pas de problème.
Merci Tom, vous êtes encore avec nous jusqu'à 8h. Hein. Vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également nous envoyer ce fameux SMS au 939 avec le mot jardin, un espace et votre question. Mais on a reçu un téléphone, Sophie, un téléphone qui... la personne n'a pas voulu parler, mais vous avez réceptionné sa question. Est-ce que vous êtes là, Sophie ?
Je suis là, si je ne mets pas le micro, ça ne va pas.
Ah, voilà.
Donc, j'ai réceptionné cette question qui est pour son ami Christian de Bure. Cette dame nous a dit que ce monsieur avait un cerisier qu'il a planté il y a 2 ans et que maintenant, des taches brunes apparaissent sur les feuilles. Elle dit aussi qu'il y a genre 2 petites cerises qui poussent, mais sans plus, sur l'arbre. D'où est-ce que ça peut venir et qu'est-ce qu'il peut faire pour peut-être éviter d'avoir plus de taches brunes ou les réduire, Tom?
Alors, déjà, pour la première question, pour la deuxième question plutôt, c'est normal s'il n'y a pas de cerise à la deuxième année de plantation d'un cerisier. Un cerisier, pour qu'il ait une pleine période de production, il faut compter bien 5 ans en tout cas, voire même 10 ans. Ensuite, pour la maladie, c'est une maladie fongique, donc c'est un champignon qui vient sur ce cerisier. pour le traiter de manière biologique, on va faire plutôt une... on va éliminer cette rouille, je pense que ça doit être une rouille. Il faut faire une bouillie bordelaise où c'est un produit à base de cuivre. Faire attention, pas en faire trop parce que ça peut contaminer les sols, mais sinon pas trop de problèmes. On en trouve dans toutes les bonnes jardineries.
Merci Tom, on attend vos questions à vous qui nous écoutez. 0970 20 20, ce numéro vous le connaissez maintenant. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec Sheryl Crow.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et on a Monique de Porrentruy qui nous a écrit un SMS, SMS que vous pouvez envoyer au 939, hein, je le rappelle. Elle nous a écrit que son jeune damascénier planté cette année est bien reparti, mais que depuis quelques temps, toutes les feuilles extérieures frisent et semblent malades. Elle dit également que des fourmis se baladent sur le tronc. Alors, est-ce que c'est possible que ces feuilles qui frisent soient dues aux fourmis, Tom ?
Eh bien, malheureusement, elle a des pucerons. C'est pas les fourmis, Ta-da. C'est les pucerons. Mmh. Et les fourmis, elles vont traire les pucerons pour récupérer une petite science, une petite, un petit liquide sucré qui va permettre de nourrir ces fourmis. Donc, il faut traiter les pucerons ou espérer qu'il y ait des coccinelles qui débarquent pour manger ces pucerons.
Ah, donc les fourmis se nourrissent de quelque chose, des pucerons, ça je ne savais pas.
Le miel. Ça s'appelle le miel.
Ok, d'accord. Donc voilà, en fait, c'est des petites choses, on ne sait pas, qui se passent dans le monde, des tout petits insectes. Et ben voilà, donc en fait, simplement traiter contre les pucerons, puis les fourmis vont partir d'elles-mêmes.
Oui, après il y a Fabrice qui était là le week-end passé qui disait qu'il avait une solution, c'est qu'il mettait des pots en terre cuite dans lesquels il mettait de la paille ou des copeaux qui suspendaient aux arbres. Ça peut être une bonne solution pour que les forficules ou ce qu'on appelle les perce-oreilles viennent se loger dedans.
Comme un petit hôtel à insectes en fait. Hein.
Voilà.
Et puis les coccinelles donc mangent ces pucerons, mais il n'y a pas de moyen d'attirer spécialement des coccinelles sur son arbre.
Ah, donc on peut même en acheter dans le commerce, dans les jardineries. On trouve des petits bulletins de commande, puis on reçoit des larves de coccinelles par la poste. Alors la solution, elle n'est pas miraculeuse, hein, ça va pas venir, ça va prendre son temps, en 10 mois, il faut compter un bon mois. Et là, les coccinelles, les larves de coccinelles surtout, vont venir manger les pucerons.
Merci Tom. On a reçu encore une question. Celle-ci concerne les framboisiers. C'est une personne qui nous demande si c'est encore le bon moment pour planter des framboisiers. Elle voulait le faire plus tôt, mais par contre, elle a été hospitalisée. Du coup, elle se demande si les fruits pousseront malgré que la saison des framboises ait débuté.
Alors, pour les framboisiers, déjà bon rétablissement. Parce que si c'était hospitalisé, c'est pas génial. Mais pour les framboisiers, oui, elle peut les planter maintenant si elle en trouve encore en jardinerie. Le framboisier, c'est une plante, presque un petit arbuste vivace. Donc, elle pourra les récolter quelques framboises déjà à l'automne, mais pourront recommencer dès le printemps l'année prochaine. Par contre, attention, on est déjà au mois de juin, il risque de faire chaud maintenant qu'on a eu toutes nos intempéries. Donc, elle peut les planter maintenant ou plutôt à l'automne. C'est même la meilleure solution, comme ça ils auront le temps de bien s'enraciner. Les récoltes de cette année seront très maigres, donc je conseille plutôt d'attendre cet automne pour avoir des framboises l'année prochaine.
Puis finalement, des framboises, on peut en avoir à partir de maintenant et jusqu'à cet automne. Hein, normalement, pour un framboisier qui est déjà bien planté, on va dire, et contrairement aux framboisiers de notre auditrice.
Alors, il y a deux types de framboisiers. Il y a les framboisiers remontants et les framboisiers qu'on dit traditionnels. Les remontants, ils vont faire des framboises sur... Si je ne me trompe pas, ça fait un petit moment que je ne suis plus allé à l'école.
Il y a des restes.
Ils vont produire sur les bois de l'année. Donc, on les taille tout court et ils vont donner des framboises sur le bois de l'année. Et les non-remontants, la taille s'effectue en automne. Donc, on va enlever les branches qui ont déjà fructifié. Et puis, c'est... Il reste les autres cannes et ça va faire des framboises sur les petites pousses de ces cannes-là.
Merci Tom, on a reçu une autre question concernant un pied de vigne. Cette fois-ci, c'est Sylvain qui a acheté ce fameux pied de vigne, alors assez haut, 1,50 m, nous dit-il. Il nous demande ce qu'il doit faire lors de la plantation. Alors déjà, comment le tailler ce pied de vigne, comment l'arroser? Il ne voudrait pas qu'il devienne trop grand non plus. Donc on imagine qu'un pied de vigne, ça grimpe le long d'une maison. Enfin, c'est quelque chose qui est assez grimpant, n'est-ce pas, Tom?
Alors, la vigne, tout à fait, c'est une liane. Je suis un petit peu interloqué par sa question parce qu'il dit qu'il n'aimerait pas que ça vienne trop haut, alors que c'est plutôt une plante qui a tendance à devenir envahissante. Je me poserais déjà vraiment la question si ce n'est pas juste pour avoir le plaisir d'avoir quelques grappes de raisin dans son jardin. Est-ce que c'est vraiment la bonne plante qui veut, parce que ça peut être dommage d'installer une plante qui risque de vraiment devenir envahissante. Mmh. Après, pour la taille, je ne suis pas spécialiste dans les plantes vignes, mais je sais que ça se taille une fois à l'automne et une fois tout au début du printemps. On dit qu'on doit faire pleurer la vigne, donc c'est quand la sève remonte. Et puis, je crois que s'il se renseigne sur Internet, il trouvera plein de solutions. Par contre, pas théoriquement, il n'y a pas besoin d'arrosage, parce qu'on voit souvent ces pieds de vigne dans la côte, dans le canton de Vaud, c'est qu'ils ne sont pas du tout arrosés. Et c'est des terrains très, très, très caillouteux, très, très drainants. Donc, pas besoin de l'arroser.
Merci Tom. Sophie, vous avez quelqu'un en ligne pour poser une question?
C'est Jean-Pierre de Grandval qui a une question sur les cochenilles. On en a déjà parlé ce matin, mais il va vous poser sa question. Jean-Pierre, vous êtes toujours là? Pardon, Jean-Pierre, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonjour. Voilà. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, c'est Jean-Pierre de Grandval. On a comme ça un problème avec les cochenilles, avec les orchidées.
Oui.
Même quand on les traite, j'ai acheté du produit Maga, là.
D'accord.
Je les traite d'œufs, même quand je les achète directement, je les traite pour commencer, on va les prendre dedans. Puis on avait tout désinfecté, le bord de fenêtre, tout. Et puis ça revient quand même nouveau.
Alors,
qu'est-ce que vous avez comme idée?
Les cochenilles, ça peut faire des œufs qui se propagent même dans l'air. Donc, vous avez déjà fait une bonne chose pour vous en débarrasser. Déjà, justement, surveillez les cochenilles, les plantes que vous en les achetant, parce que des fois, il y a une telle pression chez les jardiniers quand ils les achètent que c'est là que ça pose problème. Après, si c'est sur des orchidées, ça pose pas trop de problèmes si vous les passez carrément même dans l'eau comme ça. Ce que la cochenille va détester, elle aime bien rester. Donc moi, je les douche, mes orchidées. Uh-huh. Elles vont détester être comme ça, un petit peu délogées. Et puis sinon, avec un tout petit peu d'alcool à brûler, et puis les petits bâtons pour se nettoyer dans les oreilles, je l'essaye de les déloger. Les Q-tips, parce que je les essaye de les déloger, parce qu'elles vont souvent... Dans l'orchidée, elle fait des feuilles qui s'entrecroisent, puis ça fait un petit peu des endroits où c'est qu'elles vont se cacher là-dedans. C'est les deux seuls conseils que je peux vous donner. La cochenille, c'est assez difficile de s'en débarrasser.
Alors, l'alcool, vous mettez combien de pourcentage d'alcool à peu près alors?
Moi, j'y vais avec de l'alcool à brûler que je trempe mon Q-tips dedans et puis.
Ah, carrément?
Ouais, je vais comme ça. Sinon, il y a une autre technique avec le savon noir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mettre ça.
Non.
Et puis je mets du savon noir dans un litre d'eau. Je mets à peu près 150 ml de savon noir. Puis je vaporise jusqu'à 3 fois par semaine sur mes orchidées pour éviter justement comme ça. Le temps d'une semaine, 3 fois, je regarde s'il y en a encore. Une fois nouveau, 3 fois s'il y a... Enfin, vous avez dit traiter, mais il faut traiter régulièrement pour éviter que justement il y ait peut-être des œufs qui reviennent.
Qui traînent à une place ou à l'autre.
C'est ça.
C'est tout bon, Jean-Pierre? Vous avez réponse à votre question?
Je Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end.
Hein. Merci d'avoir téléphoné.
Merci,
et
puis courage
aussi.
Avec vos cochons.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir. Belle journée. Mais voilà, on a eu pas mal de questions ce matin. Pour nous, c'est bientôt l'heure, justement, de s'attaquer au jardinage. Grâce à tous ces bons conseils reçus ce matin, alors on vous remercie chaleureusement, Tom Mona, d'avoir répondu aux nombreuses questions des auditeurs. On vous réentend très bientôt et on vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée.
Les jardinières reviennent évidemment eh bien, samedi prochain pour un nouveau rendez-vous pour les amoureux du jardinage. Et cette fois-ci, nous serons accompagnés de Philippe Détra, notre horticulteur bio à Neuchâtel. Si vous avez déjà des questions que vous n'avez pas osé poser ce matin ou que vous n'avez pas eu le temps, bien vous pouvez le faire dès à présent par SMS au 939 ou alors grâce au formulaire sur nos sites internet. Et elles seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.